Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? La série musicale de Matteo Caronta.
Tout l'été, la série musicale a fait tomber les murs. Après la chute du mur de Berlin la semaine dernière, après avoir ouvert les portes des prisons et interrogé les frontières du genre, dépassons cette semaine les barrières qui nous séparent de la nature. Cette série musicale part d'abord d'un constat. Nous sommes en train de vivre la sixième extinction massive des espèces de l'histoire de la planète Terre et nos modèles de production en sont en grande partie responsables. L'actualité inquiétante de cet été sur les records de température ou la fonte massive des glaces ne laisse rien présager de bon pour le futur proche de l'écosystème planétaire. De ce constat, nous avons voulu faire une série musicale en forme d'ode à la nature pour lever le nez de nos écrans et se poser, ne serait-ce que le temps de cette émission, sur la symphonie du monde. La nature, c'est ce domaine que l'on définit par le fait que nous n'y sommes pas. Eh bien, cette semaine, je vous propose d'y être, de sonder le tango de la ville et de la nature, d'écouter le chant de l'écologie, de plonger en Amazonie et de vibrer au son des plus mélomanes des créatures terrestres.
France Culture, la série musicale.
Pour commencer cette semaine en douceur, je vous propose un voyage dans l'espace et dans le temps. Un tour d'horizon musical non exhaustif, des éléments, c'est des paysages. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Épisode 1, Nature, Manantropo. Forest du groupe anglais The Cold Wave, The Cure. Le narrateur de la chanson raconte comment il se perd à courir dans la forêt pour tenter d'atteindre une jeune femme dont il entend la voix, mais qui n'est en fait qu'un leurre. Et si je commence par vous parler de nymphes chimériques et de forêts, c'est parce que notre série musicale se place sous la figure tutélaire d'Orphée. Pourquoi Orphée ? Eh bien parce qu'il incarne la poésie et la musique, qu'il fait le lien entre les hommes et la nature. Celle-ci lui obéit. Son chant, raconte Ovide, est à même de dompter les animaux, de retenir le cours d'un ruisseau ou de triompher des créatures sanguinaires qui peuplent les montagnes de Thrace. Orphée attendrit les arbres. Les arbres le couvrent de leur ombre. La voix et le son de sa lyre enchantent le monde. Dans un blues bougonnant, le chanteur et poète australien Nick Cave raconte à sa manière comment Orphée a bricolé son instrument avec un bout de bois, un pot de colle et un morceau de ficelle. Nous sommes très loin de l'éther et du don d'Apollon de la mythologie grecque, et ici, le son de lyre du héros fait éclater les oisillons en vol et pousse les lapins au suicide. La lyre d'Orphée, The Lyre of Orpheus, Nick Cave and the Bad Seeds.
Orpheus sat gloomy in his garden shed, wondering what to do with a lump of wood and a piece of wire and a little pot of glue. Oh, mama. Oh, mama. He sawed the wood with half a heart and he glued it top to bottom. He strung a wire in between. He was feeling something rotten. Oh, mama. Orpheus looked at his instrument and he gave the wire a pluck. He heard a sound so beautiful. He guessed and he said, oh my God. Oh mama. Oh mama. He rushed inside to tell his wife. He went racing down the halls. Eurydice was still asleep in bed, like a sack of cannonballs. Oh, mama. Oh, mama. Look what I've made, cried Orpheus, and he plucked a gentle note. Eurydice's eyes popped from their sockets, and her tongue burst through her throat. Oh, mama. Oh, God, what have I done, he said, as her blood pooled in the sheets. But in his heart, he felt a bliss which nothing could compete. Oh, mama. Oh, mama. Orpheus went leaping through the fields, strumming as hard as he did please. Birdies detonated in the sky. Bunnies dashed their brains out on the trees. Oh mama.
Oh mama.
Oh mama.
Oh mama.
Orpheus strummed till his fingers bled. He hit a G minor 7. He woke up God from a deep, deep sleep. God was a major player in heaven.
Oh mama. Oh, mama.
God picked up a giant hammer and he threw it with a thunderous yell. It smashed down hard on Orpheus's head and it knocked him down a well. Oh, mama.
Oh, mama.
Oh, mama. Well, the well went down very deep. Very deep went down the well. Well, the well went down so very deep. Well, the well went down to hell.
Oh, mama. Oh, mama.
La lyre d'Orphée de Nick Cave tourne mal. Elle finit dans un bain de sang, mais raconte, à sa manière sanguinolente, l'influence d'Orphée sur le monde. Ainsi, beaucoup de compositeurs ont rêvé de pouvoir agir sur la nature à la manière d'Orphée. Et si infléchir le cours des choses avec la simple vibration d'une note de musique n'a pas vraiment l'air évident, le mythe tragique d'Orphée et Eurydice est pourtant au cœur de l'histoire de la musique. Avec plus de 45 opéras racontant sa descente aux enfers, il est le récit le plus chanté de l'histoire lyrique. L'Orfeo du Florentin Claudio Monteverdi de 1607 constitue l'acte de naissance de l'opéra moderne. Et c'est aussi Orphée et Eurydice, mis en musique par Gluck en 1762 à Vienne, qui signe le début de la période dite classique. Cet opéra est peut-être l'un des premiers tubes de l'histoire de la musique européenne. Tant et si bien que Gluck en écrivit 4 versions. Une en allemand, 2 en italien et une en français pour le plaisir de la jeune dauphine Marie-Antoinette d'Autriche sur le point d'accéder au trône du royaume de France. Le 2 août 1774, Christoph Willibald Gluck triomphe au théâtre du Palais Royal. Dans l'acte 2, grâce à sa voix légendaire, Orphée écarte les furies et les monstres du monde souterrain des enfers. Il peut donc avancer sereinement dans les champs élyséens où résident les âmes vertueuses. Il décrit dans la scène 3 la beauté des paysages qui l'entourent. Le ciel, les fleurs qui tapissent les prairies, le chant des oiseaux et le murmure des vents. écoutons ce magnifique air d'Orphée avec dans le rôle du héros musicien Kathleen Ferrier et l'Orchestre Philharmonique de Vienne en 1951. Quel nouveau ciel par ces lieux. Quel son harmonieux, dit Orphée. J'entends retentir ce bocage, du ramage, des oiseaux, du murmure des ruisseaux et des soupirs de Zéphyr. La voix d'Orphée qui a écarté les ombres des enfers. Comme Orphée, la chanson s'est souvent émue de la beauté des paysages visuels et sonores, la mer, les forêts, la montagne. Commençons notre voyage, en terre nature, par la plus voyageuse des chanteuses d'Hong Kong. En 73, Frances Yip compose un album entier basé sur l'expérience du voyage et pour cause, c'est la compagnie aérienne Cathay Pacific qui lui en a fait la commande, et en 9 langues, s'il vous plaît, pour faire honneur aux 9 principales destinations desservies. Bref, on pourrait s'attendre à une BO de ligne aérienne, et pourtant. L'album qu'elle produit est de si bonne qualité qu'un agent du label EMI, en l'écoutant par hasard sur un vol qui le ramène à Londres, décide de la retrouver et de la signer. Frances Yip devient, en quelque temps, une vraie icône dans le port au parfum. À tel point... À tel point que c'est elle qui présente et chante la cérémonie de rétrocession d'Hong Kong de la Grande-Bretagne à la Chine en 97. Dans sa chanson « Green is the mountain »,« Verte est la nature », elle chante la beauté éternelle de la nature. La montagne est verte, la source est bleue, la montagne sera toujours verte et l'eau toujours bleue.
Oh,
La montagne verte de Françoise Yip, l'eau pure et bleue de ses sources. Pour Charles Trenet, la mer, on le sait bien, a des reflets d'argent plus que bleu, quand il la chante en 1946. Mais pour ne pas dépenser trop de notre empreinte carbone imaginaire, je vous propose d'en écouter une version enregistrée 10 ans plus tard, alors qu'il est en tournée au Japon. La version que vous allez entendre a eu un tel succès qu'elle est devenue le générique de la NHK, la Nippon Hosoi Kyokai, la télévision publique japonaise, et qu'elle s'enseigne aujourd'hui dans les écoles.
La mer Natsu no hi Nami wa odoru Hikari no Kage la mer Utsuri yuku Kosame ni La mer Hateshimo Naku tsunagaru Ai no yume to la mer Kiyorakana aozora Goran Nagisa no ao i ashi o Goran Kamome no asobu i o La mer Yasashii Umi no ibuki Ai no uta wa la mer Waga mune ni nagareru La mer Natsu no hi nami wa hodoru Hikari no kage la mer Utsuri yuku kosame ni La mer
La mer, vendue à plus de 70 millions d'exemplaires, est pourtant une chanson que Trenet n'assumait pas vraiment, la trouvant trop solennelle, trop rococo selon ses mots. L'anecdote raconte qu'il l'aurait écrite en 43 en une vingtaine de minutes sur la ligne du chemin de fer qui longe la côte entre Montpellier et Perpignan. Certains disent que ce n'était même pas en regardant la Méditerranée qu'il l'a composée, mais les yeux tournés vers l'étang de Thau, à côté de Sète, composé à moitié d'eau douce, un scandale. Quoi qu'il en soit, traversons la Méditerranée, où Nagat et Sahira adorent la mer elle aussi. Anna Abashaak Elbarth déclare, la chanteuse et actrice égyptienne connue pour sa voix délicate et sa grande beauté, elle fait chavirer le monde arabe au milieu des années 50. Dans cette chanson, Nagat et Sahira posent sa voix sur un poème d'Abdelrahim Mansour. La mer ici est une métaphore de l'amour, parfois agité, parfois en colère, ou parfois silencieux.
زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر انا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء فرحنا وشعانا وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق أنا بعشق الطريق
J'aime la mer qui est tendre et parfois folle, migrante, voyageuse et parfois confuse, en colère ou pleine de silence comme tu l'es aussi parfois. J'aime la mer. Utiliser la nature pour évoquer des sentiments, c'est peut-être l'approche qui nous semble la plus évidente en musique. Mais cela n'a pas toujours été le cas et il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et César, dans notre histoire de la musique en nature, s'appelle Ludwig van Beethoven. Posons nos valises à Vienne. Sa sixième symphonie, la bien connue Pastorale, est donnée pour la première fois dans un concert fleuve à Vienne en 1808 aux côtés de la cinquième symphonie. Dans ses fantaisies pour piano, une messe, un concerto et la cinquième symphonie. Imaginez, 4 heures d'inédit de Beethoven en sa présence la veille de Noël, un vrai cadeau à l'histoire de la musique. Habitué du cycle héroïque, le compositeur exalte ici la puissance des éléments à travers son quatrième mouvement, l'orage. Il réussit à exprimer non plus la nature dans sa forme, mais le sentiment que la nature provoque chez l'homme. Il parvient aussi, à travers la mélodie de l'orage, à faire de la nature un réceptacle des passions humaines. Beethoven, 6e symphonie, 4e mouvement, l'orage.
Thank you.
l'orchestration bouillonnante de l'orage dans la symphonie pastorale, une esthétique qui prendra le nom de Sturm und Drang en allemand, tempête et passion. En faisant de la nature une évocation extérieure de l'âme humaine, Beethoven ouvre la voie du romantisme dans la musique. La question n'est plus la nature, mais plutôt la relation que l'homme établit avec elle. Et il y a autant de compositeurs romantiques qui se sont posé la question désormais passionnelle de la nature qu'il y a de compositeurs romantiques tout court, Berlioz, Mahler et Tchaïkovski en tête. Le romantisme crée du sublime, il contemple un paysage pour sonder nos propres abîmes.
France Culture, la série musicale d'été, Matteo Caranta.
Une intempérie chargée d'affect, c'est ce que raconte aussi l'un des plus grands standards de l'histoire du jazz, Stormy Weather. Direction Harlem, à New York, en 1933 au Cotton Club, où se retrouve toute la crème du jazz new-yorkais, avec entre autres le pianiste Duke Ellington, le trompettiste Louis Armstrong, ou les chanteuses Adelaide Hall et Ethel Waters. C'est cette dernière qui connaît la consécration au Cotton Club avec Stormy Weather, composée par Harold Arlen et Ted Koller. La chanson est le clou des spectacles qui se prolongent tard dans la nuit, et on installe tout un tas de machinerie autour de Ethel Waters pour obtenir des effets d'orage. Mais c'est la version de Billie Holiday en 53 qui reste gravée dans l'histoire du jazz. Billie Holiday, dont la voix, pleine de sourire et de solitude à la fois, donne un parfum d'intemporel à cet enragé pleuré. Je ne sais pas pourquoi il n'y a plus de soleil dans le ciel, mais un temps orageux. Depuis que mon homme et moi ne sommes plus ensemble, il pleut tout le temps. Billie Holiday, 1953.
Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time. The time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. time. Keeps raining.
Stormy Weather, Billie Holiday, qui broie du noir et elle n'est pas seule. Jim Morrison, le poète rocker, partage avec la Lady Day une addiction à la cocaïne et à l'héroïne qui lui sera fatale. Dans Rider and the Storms, l'orage, c'est la tourmente de la condition humaine, jetée au monde comme des chiens sans leurs os. La chanson, écrite quelques mois avant sa mort par overdose dans les toilettes de Rock'n'Roll Circus à Paris, clôt le dernier album des Doors, LA Woman, en janvier 71. Ce blues sombre devait être joué un mois plus tôt lors de leur dernier concert à New Orleans. Mais Jim Morrison, qui pourtant n'est pas sous ce soir-là, ni drogué a priori, perd le contrôle au moment de chanter « Light My Fire ». Il s'assoit, hagard et silencieux, sur la scène. Le batteur John Densmore lui assène alors un coup de pied dans le dos pour tenter de le réveiller et l'orage Morrison tente de tout casser sur scène. Fermeture de rideau en pagaille et Riders on the Storm ne sera jamais joué en live.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Si les phénomènes naturels de la nature sont propices, comme ici, à l'incarnation des sentiments, la nature a souvent été elle-même incarnée. Dans les mythologies grecques et égyptiennes, dans les cultures amazoniennes ou inuites pour les Yoruba ou les Maoris, partout, l'homme a chargé la nature d'esprit et d'intention. Pachamama, Gaïa, la mère nature, Isis, Déméter, Orisha sont autant de noms et de formes qui l'ont enveloppée. Une chose est certaine, cette mère nature qui engendre toute chose se chante au féminin. Direction Lagos, où le prince Nico Mbarga la chante en créole Pidgin English. Mbarga est une immense star oubliée du highlife nigérian qui a vendu plus de 30 millions d'albums. Il fait du highlife, c'est un mélange inspiré de musique militaire, de jazz et de rythme Ashanti ghanéen. Dans la chanson que je vous propose d'écouter, il remercie la mère nature et lui demande d'amener la pluie. Il y a un temps et une saison pour chaque chose, et là, il fait trop sec, rappelle-t-il. Le prince Nico Mbarga et le Rocafil Jazz modulent sur deux accords majeurs et font groover un son highlife teinté de calypso. La Mamae Natureza, la mère nature version rock de Sao Paulo, prend soin de la reine du genre Rita Lee, Dans la chanson, Rita ne sait pas si elle va réussir dans la vie, mais pose sa tête sur les genoux de Mère Nature qui prend soin d'elle. Et cela a plutôt porté ses fruits, puisque Rita Lee et son groupe, les Tutti Frutti, font danser toute la jeunesse dorée du Brésil dans les années 70 avec ce titre aux accents californiens qui sent bon la plage de Copacabana. En opposition à cette nature vivante et agissante, il y a un lieu physique où l'humanité aime penser la nature parce qu'il peut la magnifier, la contempler à sa guise et la cerner, c'est le jardin. L'homme y invente une nature rassurante qu'il modèle selon ses goûts. Le paradis terrestre lui-même est un grand jardin. L'Éden, où Adam et Ève ont un peu exagéré sur la consommation de fruits, est un lieu sans tourment et sans difficulté, renvoie à un temps béni où les hommes vivaient en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde environnant. Retour à Paris, où Dick Angarn chante son amour pour la plus jardinière des fleurs, s'il en est une, le géranium. Il est bien dans ce jardin, Angarn. Il s'adresse à la poule, aux coqs et aux fleurs et n'a plus besoin de vin pour être saoul. C'est le paradis.
Sacré géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous.
Angarn cultive son géranium, c'est dans un autre jardin que va se jouer une révolution de la nature en musique et de la mise en harmonie du monde. Nous sommes en février 48, 1748, et Jean-Philippe Rameau présente au roi Louis XV, Zaïs, sa nouvelle pastorale. Vivaldi a déjà composé les quatre saisons, mais Rameau va plus loin dans l'imitation. Il propose un ordonnancement musical des éléments de l'univers. Dans l'ouverture, c'est la naissance du monde qu'il veut décrire par couches successives d'harmonie. Les coups de tambour et les cordes peignent l'agencement des éléments. Totalement avant-gardiste pour l'époque, l'ouverture de Zaïs célèbre l'univers comme harmonie musicale. À titre comparatif, l'ouverture de Rameau que vous allez entendre sera suivie d'une autre proposition cosmogonique, mais de Philippe Glass cette fois-ci. Le musicien qui a composé en 2006 une pièce multimédia en forme de voyage orchestral dans le temps de la ville d'univers s'était déjà frotté à la question en 92, mais cette fois-ci dans un minimalisme percutant. Zaïs de Rameau donc, puis The Beginning, le début de Philippe Glass.
Thank you.
France Culture, la série musicale d'été, nous voyageons autour de la mise en musique de la nature. Et il est rare de trouver un compositeur lui ayant porté un regard aussi attentif que Claude Debussy. Debussy décompose la mélodie pour rechercher l'essence même du son. Il se concentre sur les manifestations primordiales de la nature. Et au-dessus de toute chose pour le compositeur, il y a l'eau. L'eau, c'est le secret du monde, c'est ce qui donne la vie. C'est ce sans quoi rien n'est possible. Il essaye de retranscrire les couleurs sonores transmises par des milliers de molécules d'eau et tente ainsi de créer des paysages impressionnistes. Comme Pissarro ferait avec un tableau, il compose un paysage avec une multitude de particules. Cette incarnation impressionniste de la nature est poussée jusqu'au rythme ternaire qui crée un sentiment d'hésitation et retranscrive le précis hasard du mouvement de l'eau. Mais puisque l'eau n'est pas toujours liquide, voici une étude jouée par Claude Debussy lui-même en 1908 sur la danse des flocons de neige.
Bourdon bien vivant du comte d'Utstar, Saltan, l'opéra de Rimsky-Korsakov, écrit en 1900 en hommage à Pushkin, revisité version funk par Shawn Lee dans un album assez jouissif où l'américain reprend certains thèmes du répertoire classique comme le lac des cygnes ou la chevauchée des Valkyries. Mais si j'aborde ce bourdon à la course effrénée, c'est parce que parler de nature en musique, c'est toujours ouvrir un grand bestiaire, un immense herbier en forme de catalogue et de collection anatomique. Les éléments naturels sont à la source physique et esthétique de la musique,
et il façonne les instruments et l'imaginaire musical. Ainsi, on taille des flûtes dans les roseaux, on tire des cordes avec des boyaux de mouton ou de bœuf, on fabrique les percussions avec des carapaces et des peaux de chèvre tendues, on utilise certains bois plus que d'autres pour faire mieux résonner les violons. Le mythe raconte qu'Hermès a inventé le premier instrument en trébuchant sur une tortue. Mais pour rester raccord avec notre bourdon, et pour conclure ce voyage avec hauteur, je vous propose que nous fassions honneur aux créatures qui peuplent les nuages et dorment sur les arbres en allant chercher un drôle d'oiseau, le bien nommé Monsieur Oiseau, alias Quentin Dupieux. L'étrange volatile, avant de migrer en Californie et de devenir le réalisateur de longs métrages sélectionnés à quinzaine des réalisateurs, a fait roucouler la planète entière avec un son dance entêtant qui a forcément croisé votre chemin acoustique. Flat Beat de Mister Oiseau fête ses 20 ans cette année et introduit à sa façon l'épisode de demain. C'est la fin de ce premier épisode de Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Demain, changement d'ambiance, nous explorerons une nature isolée, soumise au dogme du progrès. À la réalisation cette semaine, la Gaïa des transitions sonores, Nathalie Salle. Aujourd'hui, à la technique aquatique, Cindy Legru-Melec. Merci à la connaissance musicale enracinée d'Antoine Villose et de la discothèque de Radio France, ainsi qu'aux arborescentes Anne-Lise Signoret à la bibliothèque et Zoé Fernandez à la documentation musicale. Merci également à Marine Decamp et Aude Vincent pour leurs archives INA. Nature, mais qu'est-ce que tu nous chantes ? Une émission proposée par Matteo Caranta, podcastable naturellement, sur le site de franceculture.fr et sur l'appli Radio France.